La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Images d'hommes puissants descendant de leurs avions dans la nuit argentine, le sommet du G20 se déroule aujourd'hui et demain à Buenos Aires.
Un G20 qui a une fâcheuse tendance cette année à ressembler à un club fermé pour hommes forts. C'est Simon Petit qui le dit dans son édito du temps, car la photo souvenir Buenos Aires 2018 que l'on ne manquera pas de nous montrer devrait présenter un nombre conséquent d'autocrates. Le chinois Xi Jinping, le russe Vladimir Poutine, le turc Recep Tayyip Erdogan, le rwandais Paul Kagame aussi invité. Car président de l'Union africaine. Voilà une liste à laquelle il faut désormais ajouter celle des leaders national populistes nouvelle génération. Donald Trump ou Narendra Modi, l'italien qui, rappelle Simon Petit, ont en commun de saper les contre-pouvoirs dans leur démocratie et de mettre le nationalisme en première ligne. À tel point que cela devrait en principe empêcher toute coopération internationale. Mais au contraire, analyse Simon Petit, ces mâles puissants se serrent les coudes. Il n'y a qu'à voir comment Donald Trump cajole le néo-fasciste brésilien Jair Bolsonaro ou donne un blanc-seing au saoudien Mohamed Bin Salman. On verra si cette solidarité testostéronée jouera aussi en faveur de Vladimir Poutine après l'agression infligée aux Ukrainiens le week-end dernier. Mais si les membres du G20 veulent vraiment incarner le bien-être mondial, conclut l'éditorialiste du Temps, il ferait bien de commencer par faire le ménage en son sein.
Bon, mais ça n'est pas complètement vrai qu'il n'y a que des hommes autour de la table du G1, puisqu'il y a aussi Theresa May, la britannique, et l'allemande Angela Merkel.
C'est vrai, mais pour le moment, la chancelière manque à l'appel à Buenos Aires. Explication donnée par Die Welt, son avion officiel, le Konrad Adenauer, en Airbus, a connu une avarie électrique hier soir. Il a dû rebrousser chemin au bout d'une heure de vol pour atterrir en urgence à l'aéroport de Cologne. Du coup, la délégation allemande va rater le début du sommet. Un G20 qui, selon le quotidien économique Handelsblatt, se jouera non pas dans les grandes réunions cérémonielles de la gouvernance mondialisée, mais bien dans le secret des rencontres bilatérales entre chefs d'État. Et ça promet des combinaisons passionnantes, nous dit Nicole Bastian, autour de qui acceptera par exemple de s'afficher avec le paria saoudien MBS, qui sortira vainqueur du combat d'éléphant Xi Jinping, Donald Trump, comment ce dernier va aussi gérer la crise ukrainienne dont on parlait à l'instant avec son copain Vladimir Poutine. Voilà autant de questions qui font dire à la journaliste allemande Handelsblatt qu'on ne devrait pas s'ennuyer à regarder nos leaders évoluer ces deux prochains jours dans l'aquarium de Buenos Aires. Et sur la même tonalité, le Huffington Post s'est amusé à recenser dans une infographie toutes les tensions bilatérales qui existent entre les pays du G20. On met les drapeaux des pays en cercle et on relie avec des fils rouges tous ceux qui ont des conflits en souffrance. Vous trouverez le résultat sur franceculture.fr, mais je vous laisse imaginer que ça donne une pelote assez infernale. Et chacun dans la presse internationale ce matin tire un fil différent selon la région d'où il écrit. Pour le South China Morning Post par exemple, sachez que l'autre grand enjeu de ce G20, c'est la rencontre entre Xi Jinping et Narendra Modi, l'Indien. Donc on espère une avancée sur le conflit entre l'Inde et la Chine sur leurs frontières communes. Je vous passe les détails, mais sachez que ça fait au moins 70 ans que ça dure.
Et avec tout cela, nous n'avons pas parlé du dossier coréen. La réconciliation entre le Nord et le Sud va particulièrement bon train. Vous soulignez ce bon train, je suis sûr que vous êtes un peu taquin là-dessus.
Oui, le rapprochement est sur les rails, hein, au sens proche du terme, à lire sur le site de la chaîne sud-coréenne Arirang TV ce matin. Un train a franchi la frontière au cours d'une cérémonie particulièrement symbolique. Un train du sud qui passe au nord, ce n'était pas arrivé depuis une décennie, et celui-ci va parcourir la République populaire nord-coréenne pendant 18 jours pour inspecter les voies ferrées et, dans l'idéal, préparer des travaux de mise en conformité pour qu'un jour prochain, oui, un express relie à nouveau Séoul et Pyongyang. On n'en est pas là, reconnaît l'américaine Bloomberg, qui nous explique que rien que pour cette liaison d'aujourd'hui, il a fallu dénouer un véritable casse-tête diplomatique, trouver une faille dans les sanctions imposées par l'ONU à la Corée du Nord. La locomotive sud-coréenne, par exemple, a dû embarquer tout le fuel qu'elle va consommer pendant son expédition, donc de près de 20 jours, car il est interdit de faire entrer du carburant en Corée du Nord. Et puis, bien sûr, ça c'est le New York Times qui nous le dit, le lointain projet d'un train de la réunification est conditionné par l'avancée de la dénucléarisation promise par Pyongyang. En 2008, la précédente liaison ferroviaire entre le Sud et le Nord, qui circulait 5 fois par jour, avait été arrêtée justement parce que le régime de Pyongyang avait relancé son programme nucléaire.
Et enfin, au Kenya, Camille, les autorités veulent lutter contre l'augmentation du nombre de grossesses précoces chez les lycéennes. et ils ont trouvé ce qu'ils estiment être une solution.
Et oui, ils veulent rien de moins qu'empêcher les adolescents kényans de regarder des contenus pornographiques sur Internet. Voilà un programme particulièrement ambitieux et dont, nous dit le Nairobi Star ce matin, on veut croire qu'il pourrait permettre qu'un nombre toujours plus important de mineurs ne tombent enceintes avant la fin de leurs études. Elles seraient plus de 350 000 à avoir connu une grossesse avant 19 ans l'an dernier, selon des chiffres de l'ONU. Et ce serait donc l'accès à la pornographie en ligne qui serait à blâmer. Autant dire que cette théorie n'a pas forcément les faveurs de Michael Mutua, ce spécialiste de démographie africaine interrogé par le site The Conversation, nous explique qu'au-delà de l'influence néfaste des smartphones et du porno facile, laquelle est d'ailleurs pas forcément établie, on pourrait surtout agir au Kenya sur des leviers plus réalistes et efficaces, mettre enfin en place par exemple une politique d'éducation sexuelle ou poser la vraie question, celle de la contraception. En 2014, elle n'était utilisée que par 10% des adolescents au Kenya.
Merci Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr, 7h42.